Merci d'écouter Radio Capi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Capi.
Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, la nouvelle société civile congolaise, coordination de qui s'en fout, condamne l'attaque armée survenue sur les sites miniers dénommés Indépendance dans la province du Lualaba. Pour cette structure citoyenne, cet incident relance la question de la présence des militaires dans les sites miniers, pourtant interdite par les chefs de l'État. Nous irons ensuite à Ituri pour parler de la mesure de suspension sur ordre du gouverneur militaire des activités de chasse et piège dans la réserve à faune à Okapi dans le territoire de Mambasa. L'objectif est de protéger la faune sauvage afin de permettre la reproduction des animaux et protéger la disparition des espèces protégées. Dans le cadre de la journée mondiale des éco-gardes, Innocent Mburanumwe, directeur et chef de site adjoint du parc national de Lupemba dans le Haut-Katanga, parle du métier de ces derniers. Vous avez compris, Innocent Mburanumwe est l'invité de ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal parlé de la mi-journée dominicale. La nouvelle société civile congolaise, coordination des qui s'en fout, condamne l'attaque armée survenue dans la nuit du 30 juillet dernier sur les sites miniers dénommés Indépendance en territoire des Mouchacha dans la province du Lualaba. Dans un communiqué de presse de ce samedi, la société civile annonce que l'attaque a causé la mort d'un militaire de la garde républicaine et fait deux blessés graves. Cet incident relance la question de la présence des militaires dans les sites miniers, une présence qui est pourtant interdite par les autorités du pays, indique la société civile. Les détails avec Paulin Munanga.
La nouvelle société civile de qui s'en fout précise que les militaires qui gardaient les sites miniers Indépendance a été surpris par les assaillants au moment où il dormait dans une guérite et il a été touché par des balles. D'après des sources locales, l'arme que la victime détenait et les munitions ont été emportées par les bandits. Une jeune femme et un garde industriel ont été blessés par balles et acheminés dans un centre hospitalier à Kolwezi. La société civile condamne cette attaque et exige l'ouverture d'une enquête. Dans son rapport, cette structure citoyenne annonce que la carrière Indépendance fait l'objet de pourparlers entre la société concessionnaire Comidé et la communauté pour la rétrocession du site minier à cette communauté. La société civile souligne que des exploitants illégaux occupent cette carrière dont un groupe de personnes se réclama de la famille présidentielle. La nouvelle société civile congolaise, coordination de qui s'en fout, appelle les autorités et la société Comidé à sécuriser les sites et accélérer le processus de remise de ces sites miniers à la communauté. Aucune réaction des autorités du territoire de Mouchacha ou de la province du Lualaba sur cette attaque armée. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, suspension des activités de chasse et piège dans la réserve à faune à Okapi et Refo à Epoulou, dans le territoire de Mambasa, selon les responsables de ce patrimoine mondial. Cette décision fait suite à l'arrêté du gouverneur de province du 29 juillet dernier. L'objectif est de protéger la faune sauvage afin de permettre la reproduction des animaux et protéger la disparition des espèces protégées.
Dans son communiqué officiel de ce 30 juillet, la réserve à faune à Okapi et Refo informe tous les chasseurs et piégeurs régulièrement enregistrés ou pas qu'aucune activité de chasse ou piège n'est autorisée pendant la période du 1er août au 30 novembre prochain à l'intérieur de la réserve dans les provinces de l'Ituri et une partie de celle du Haut-Ouélé. Selon les responsables de la RFO, cette mesure vise à protéger les espèces rares et menacés, notamment les ongulés tels que les chevilles, cerfs ou sangliers, mais aussi les primates, dont les okapis, gorilles de montagne et d'autres animaux protégés. Berksin Sanfossa, directeur de conservation pour les projets de conservation de l'okapi à la RFO, explique les bien fondés de cette mesure.
La loi congolaise autorise également les autorités compétentes instaurer une fermeture exceptionnelle pour permettre à la faune de se reconstituer. Mais aussi, vous savez, il faut préserver l'équilibre des écosystèmes et la biodiversité.
Depuis un an et demi, trois okapis, dont deux mâles et une femelle, sont en captivité à la station de la réserve à faune à Okapi à Epulu dans les territoires de Mambasa. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, plus de 200 bâtiments ont perdu leur toiture à la suite d'une pluie diluvienne accompagnée de vents violents qui s'est abattu sur l'agglomération des Vichumbi dans la soirée du samedi 1er août. Située sur la rive sud-ouest du lac Édouard, dans les territoires de Rutshuru, cette localité a enregistré d'importants dégâts matériels. Selon des sources locales, plus de 300 ménages se retrouvent actuellement sans abri. Bernadette Nyangi pour le détail.
Des images de désolation témoignent de l'ampleur des dégâts à Vichumbi. Plusieurs habitations ont été endommagées ou réduites en ruines après la forte pluie accompagnée de vents violents qui a frappé la localité vers 17h15 selon des sources locales. Selon un bilan provisoire, au moins 86 bâtiments ont perdu leur toiture ou ont été partiellement détruits. Parmi eux figurent environ 70 maisons d'habitation ainsi que plusieurs bureaux et salles de classe d'écoles primaires et secondaires de la zone. Quelques cas d'enfants blessés par l'effondrement des murs ou des charpentes de leurs habitations sont également signalés, même si aucun bilan détaillé n'est encore disponible. Selon les mêmes sources, plus de 60 familles seraient actuellement sans abri. Les habitants déplorent cette nouvelle épreuve dans une zone déjà fortement touchée par l'insécurité liée aux conflits armés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des affrontements ont opposé des éléments de l'F-123 qui contrôlent la localité à des hommes armés non identifiés venus du parc national de Virunga, provoquant une nouvelle vague de panique parmi les habitants de ce village de pêcheurs.
Le conflit élevé entre Safrimex et la régie des eaux au Kasaï central. Depuis plusieurs mois, les travaux de réhabilitation des routes à Kananga endommagés les conduites d'eau potable, conséquence des coupures d'eau dans plusieurs quartiers de la ville. Les tensions entre les deux entreprises avaient même ralenti certains chantiers routiers. Après une réunion de concertation ce samedi, les deux parties s'engagent à travailler désormais main dans la main. Le point avec André Katende Ngalamurume.
Le bras de fer a finalement pris fin. L'entreprise Safrimex, chargée de la réhabilitation des routes et la régie des eaux, se sont accordées sur une nouvelle méthode de travail. Ce samedi, une délégation composée des représentants du BCECO, de la régie des eaux, Safrimex, des missions de contrôle Modilor et BK, ainsi que ceux de l'Office des voiries et drainage OVD, a visité plusieurs chantiers routiers exécutés par Safrimex, où se trouvent les réseaux de la régie des eaux. Objectif, évaluer la situation sur les sites où les travaux les réseaux de distribution d'eau. Le directeur provincial de la régie des eaux, Michel Tijik, s'est ainsi engagé à renforcer la collaboration avec toutes les parties impliquées dans le projet. Cette collaboration consiste à l'élaboration rapide des devis techniques susceptibles de sécuriser ces différents réseaux de distribution d'eau qui longent les avenues où intervient l'entreprise Safrimex. Le directeur provincial de la régie des eaux a également réaffirmé sa volonté d'accompagner Safrimex afin d'élever toutes les contraintes liées aux interventions sur les réseaux de distribution d'eau. Kananga, André Katendengalamulume, Radio Kapi.
Dans un registre consacré à la santé, sachez que les rideaux sont tombés ce vendredi 31 juillet sur la deuxième édition du Salon de l'Hôpital. Cette édition a été marquée par une série de recommandations en faveur du renforcement du système de santé. Intervenant dans un panel en cette journée de clôture, le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle a réaffirmé les ambitions de son institution, à savoir garantir à tous les Congolais des soins de qualité et contribuer à l'amélioration de l'espérance de vie à travers une approche intégrée. En effet, l'objectif final est de contribuer efficacement à l'amélioration de l'espérance de vie en RDC. On écoute le docteur Polydore Mbongani qui prône une approche multisectorielle. Il l'est dit au micro de Jean-Marc Matouaki Mofelele.
La question que nous avons débattue, c'est la prise en charge avant que les gens ne puissent accéder au système de santé, donc aux établissements de soins dont les centres de santé et les hôpitaux. Qu'est-ce qui est fait en amont? Et nous avons donc discuté de ce que nous, dans le cadre de la couverture santé universelle, nous sommes en train de mettre en place en termes de lutte contre les maladies et en termes de prévention de maladies, tant soit les maladies infectieuses comme les maladies non transmissibles. Et là, nous avons discuté de plusieurs stratégies dont l'une est menée par l'Institut national de santé publique, qui a effectivement comme mission ce travail de prévention de maladies. Mais dans notre approche de la couverture santé universelle, il faut savoir qu'il y a ce côté multisectoriel qui est très, 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 très important. Et pour lutter contre les maladies, pour prévenir les maladies, nous avons besoin d'interventions qui ne sont pas seulement celles du secteur de la santé, mais aussi celles d'autres secteurs, comme celui de l'environnement, en termes de prévention de maladies qui sont causées par notre environnement, la pollution et autres, l'hygiène, le ministère de la Santé, qui, comme nous savons, les maladies diarrhéiques.
Revenons encore une fois au Grand Katanga, car la synergie de la société civile de Kisanfu dans les lois là-bas exprime son indignation. Elle s'est dit être écartée dans la désignation des animateurs de l'organisme chargé de la gestion de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. Cet argent de la dotation qui sert à financer des projets de développement communautaire en faveur des populations locales. Dans une déclaration ce samedi à la radio Kapi, la société civile demande l'annulation du processus de désignation des animateurs de cette dotation au sein de 4 entreprises minières. Explication avec Paulin Munanga.
Une délégation du ministère des Mines venue de Kinshasa a procédé à la désignation des animateurs chargés de gérer la dot de 0,3% au sein des entreprises minières CEMOC KFM, l'Amicale, Kimine et MKM. C'était en présence du chef de groupement Ngouba. Cependant, parmi ces animateurs, aucun membre de la société civile. Elle s'est dit indignée du fait qu'elle n'a été ni associée ni invitée à ces processus. Le quota des organisations communautaires de base OCB au sein de l'organisme spécialisé chargé de la gestion de la dotation n'a pas été respecté. La société civile dénonce ces irrégularités et demande l'annulation du processus de désignation des animateurs de la dot. Un activiste de la société civile de Kisanfu s'exprime.
On a rejeté la société civile et pourtant les OCB, les organisations communautaires de base sont autonomes. Nous demandons avec toute humilité au ministre national des Mines et la délégation qu'il a envoyée l'annulation du quota des OCB, les organisations communautaires de base.
Nous n'avons pas pu joindre les chefs de groupement Ngouba ni les membres de la délégation du ministère des Mines venus de Kinshasa. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Avant les trains, les voitures et les avions, il y avait des hommes. Des hommes qui transportaient le Congo sur leurs épaules. Rendons-nous de ces pas au pied du monument aux porteurs à Matadi, dans la province du Congo central. Cette imposante sculpture rappelle une époque où des milliers de porteurs africains parcouraient de longues distances à pied pour acheminer marchandises, matériel et vivres entre les ports de Boma et l'intérieur du pays. Un hommage au courage et au sacrifice de ces hommes qui ont marqué l'histoire du transport au Congo. Élise Kavira.
Pendant des décennies, les porteurs ont été le principal moyen de transport dans l'État indépendant du Congo, puis dans le Congo belge. À pied, ils assuraient la liaison entre les littorales et l'intérieur du territoire, transportant tout ce dont l'administration et le commerce avaient besoin. Jour après jour, ces hommes parcouraient des dizaines de kilomètres à travers les forêts et les collines du Congo central. Sous le poids de la fatigue, la faim, les maladies et les accidents, nombreux parmi eux perdaient la vie en chemin. Face à ces difficultés, l'explorateur Henry Morton Stanley recommandant dès 1878 la construction d'un chemin de fer pour contourner les rapides et les chutes du fleuve Congo. La ligne Matadi-Léopoldville, achevée en 1898, remplaça progressivement le portage humain et facilita le transport des personnes et des marchandises. Aujourd'hui encore, le souvenir des porteurs demeure à travers le monument aux porteurs des Matadi. Cette sculpture géante représente 3 porteurs, dont l'un est debout, le corps incliné par le poids de sa charge, tandis que les 2 autres sont à même le sol, épuisés par la longue marche et accablés par le poids des colis qu'ils transportent. Une image réaliste de ces hommes dont la mémoire ne doit jamais être oubliée, tant leurs efforts et leurs sacrifices ont contribué au développement de notre pays. Depuis Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Merci beaucoup Élise Kavira. Revenons ensemble dans la capitale avant d'aller plus loin. La République démocratique du Congo poursuit la mobilisation en faveur de la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. À Kinshasa, une journée nationale de soutien a permis de mettre en avant sa vision d'une francophonie tournée vers la jeunesse, le numérique et l'intelligence artificielle. Les précisions dans ce reportage de Jean-Marc Matwaki.
Le musée national de la RDC a servi de cadre ce samedi 1er août à une journée nationale de mobilisation en soutien à la candidature de Juliana Lumumba, ancienne ministre de la Culture et des Arts de la RDC, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Organisée par les mouvements des femmes des 26 provinces et la structure Exalé internationale, dans son intervention, Madame Juliana Lumumba, candidate de la RDC pour le secrétariat général de l'OIF, a plaidé pour un investissement accru dans la formation des jeunes des États membres de la francophonie au métier du numérique et de l'intelligence artificielle, estimant que ces compétences constituent un levier essentiel pour l'emploi et le développement.
Il faut changer de logiciel, moi. On change de logiciel. Mais cette francophonie, cette jeunesse a besoin de quoi? A besoin de formation dans le numérique. Mais il y a le défi du numérique. Cette fracture, justement, numérique qui existe. Mais c'est pas le numérique que nous allons diminuer cette fracture. Parce que cette formation, elle sera faite par le numérique. On aura de plus en plus de jeunes formés.
Et pour les organisateurs, cette mobilisation vise également à témoigner du soutien de la société civile congolaise à une candidature qu'il présente comme porteuse de l'image de la RDC sur la scène internationale. Alain Ilunga, vice-président d'Exalé International.
C'est un choix idéal. C'est une femme qui a une carrure, qui a une carrière.
Actualité internationale.
Samedi, à la tombée de la nuit, des migrants continuaient de quitter Ceuta, à raison de quelques dizaines de personnes par demi-heure. Le plus fort de la crise migratoire est passé, alors que 50 000 personnes ont franchi illégalement la frontière cette semaine, du jamais vu dans l'histoire de l'enclave espagnole. De retour en territoire marocain, les candidats à l'immigration pointent la violence qu'ils ont subie sur place et qui a eu raison de leur rêve d'Europe.
L'invité.
Notre invité est Innocent Mouranoumoué, directeur et chef des sites adjoints du parc national de Lupemba dans le Haut-Katanga, à l'occasion de la journée mondiale des éco-gardes qui est célébrée le 31 juillet de chaque année. Il revient sur les métiers d'éco-gardes, notamment dans les parcs Lupemba, et l'importance de ces métiers ainsi que les difficultés auxquelles font face les éco-gardes. Innocent Mouranoumoué, s'entretien avec Paul Monanga.
Monsieur le directeur Innocent Mouranoumoué, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qu'un éco-garde et quel est son rôle?
Un éco-garde, c'est un agent professionnel public de l'État dédié à la conservation de la nature, chargé d'assurer la protection des ressources naturelles et de la biodiversité au sein des aires protégées. Il représente l'autorité de gestion du parc ou de la réserve et veille à l'application des lois et règlements relatifs à la protection de la nature, de la flore et des écosystèmes. Il sensibilise les communautés locales à la conservation et contribue à la collecte des données. Son rôle principal consiste à lutter contre les braconnages et surveille les écosystèmes, fait respecter les lois environnementales sur la biodiversité.
Pourquoi être gardien d'un parc est dangereux?
Le métier d'un éco-garde est considéré comme l'un des plus dangereux dans le domaine de la conservation. Pourquoi? Parce que les éco-gardes sont souvent confrontés à des braconniers armés, à des groupes criminels impliqués dans le trafic d'espèces sauvages, ainsi qu'à des conflits liés à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ils travaillent également dans des zones isolées où ils sont exposés aux maladies, aux incidents, aux intempéries et parfois à l'insécurité liée aux groupes armés.
Et comment est-ce que les éco-gardes du parc Lupemba travaillent sur le terrain? Est-ce que ces éco-gardes sont armés?
Les éco-gardes du Lupemba travaillent sur le terrain et ils sont armés. Pourquoi? Parce qu'ils effectuent des patrouilles régulières à pied, en véhicule, à moto ou par voie fluviale, selon les zones à surveiller. Ils recherchent les indices de braconnage, ils démantèlent les pièges et assurent le suivi de la faune. Conformément à la réglementation en vigueur et à leur mission de protection, certains éco-gardes peuvent être équipés d'armes de service et recevoir une formation spécifique en fait d'assurer leur sécurité et celle du patrimoine naturel qu'ils protègent parce que les parcs d'aujourd'hui sont devenus les refuges des groupes armés.
Est-ce que les éco-gardes ont réussi à empêcher les braconniers à tuer les animaux, notamment dans le parc Upemba?
Les éco-gardes ont obtenu des résultats importants dans la réduction du braconnage grâce aux patrouilles régulières, aux arrestations de contrevenants, au démantèlement de pièges et à la sensibilisation des populations locales. Cependant, le braconnage n'a pas été totalement éliminé au parc national d'Upemba parce que la protection de la faune est un travail permanent qui nécessite des efforts continus, des moyens adéquats et la collaboration des communautés riveraines et des autorités. Ceci nécessite une forte sensibilisation pour que le braconnage mette fin dans ce parc.
Quelles sont les difficultés auxquelles les éco-gardes font face très souvent?
Les principales difficultés rencontrées par les éco-gardes sont normalement le braconnage organisé parfois armé, l'immensité des territoires à surveiller, le manque de moyens logistiques et d'équipement, les conditions climatiques difficiles, les conflits entre la conservation et certaines activités humaines, la présence éventuelle de groupes armés dans certaines régions et les risques sanitaires et les longues périodes passées loin de leur famille. Ceci font étant que les éco-gardes aient des difficultés face à toutes ces problématiques que je viens de citer.
Et quel est le sens de la journée mondiale des éco-gardes qui est célébrée le 31 juillet de chaque année?
Et la journée mondiale des éco-gardes, que nous appelons World Ranger Day, célébrée chaque le 31 juillet, c'est une occasion de rendre hommage aux éco-gardes du monde entier pour leur engagement dans la protection de la nature. Elle permet également de commémorer ceux qui ont perdu la vie ou ceux-là qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette journée sensibilise le public à l'importance du travail des éco-gardes dans la conservation de la biodiversité et la protection du patrimoine naturel pour les générations futures. À cette occasion, il est important de reconnaître le courage, le professionnalisme, les sacrifices des éco-gardes du parc national de l'Upemba et de toutes les aires protégées de la République démocratique du Congo qui œuvrent quotidiennement pour préserver la richesse exceptionnelle de la biodiversité nationale.
Monsieur le directeur Innocent Mburanoumoué, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
C'était donc notre invité Innocent Mburanoumoué, directeur chef des sites adjoints du parc Upemba, qui parlait de la journée des éco-gardes dans un entretien avec Paul Munanga. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, préparé pour vous par Jean-Désiré Kanyama et Lievin Mbouinga. La mise en onde était assurée par Didone Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.